Bienvenue sur Smart Report, le podcast dédié à la fonction finance et à la consolidation.
Produit par Bismart en partenariat avec Amelkis, ce contenu exclusif décrypte les réglementations et leurs évolutions tout en explorant les dernières innovations.
Smart Report, des regards d'experts et de dirigeants pour éclairer les décideurs financiers.
Bonjour à tous, vous êtes sur Smart Report, le podcast qui tout simplement analyse la data, le reporting, la consolidation dans nos grands groupes, dans nos entreprises, de la PME au CAC 40, pour comprendre comment justement les directions financières apportent de la valeur au collectif, à leur entreprise. Pour en parler, comment le faire sans la papesse de la transformation de la fonction finance, Laurence Yvon. Bonjour Laurence.
Bonjour Mathieu. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes Head of Growth au sein d'Amelkis.
Voilà, donc je suis là pour accompagner le développement des ventes. Amelkis, il y a un fonds qui est rentré dans le capital, donc on prend un grand virage, notamment sur des grandes entreprises et sur le FP&A, puisqu'on vient un peu de la conso, du reporting group. Donc on est en train d'amorcer un virage, tu le sais, j'adore les transformations.
Donc une diversification en clients, mais aussi en métier, parce qu'on parle de FP&A. Mais le métier initial d'Amelkis?
Amelkis, c'est vraiment construit sur la consolidation statutaire. Hein. C'est 5500 entreprises qui font leur conso en Amelkis et le reporting group, qui viennent vraiment de ce monde-là, et ça s'est ouvert, et notamment vers le RSE, l'extra-financier, etc. Donc on a beaucoup de sujets passionnants à partager.
Ravi de t'avoir avec nous en plateau. À ma gauche, notre grand témoin Jean-Philippe Grégoire. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour Laurence.
Bonjour Jean-Philippe.
Ravi également d'être avec vous.
Nous nous connaissons également un petit peu, puisqu'on se croise depuis quelques années sur différents événements ou dans nos tablettes sur Decideur Magazine. Vous êtes le groupe Finance Director au sein de Daer. Vous êtes également en charge du M&A.
Absolument.
Voilà, et on vous a fait venir aujourd'hui, on vous a proposé de venir, vous avez accepté notre invitation, on vous en remercie, parce que du coup, on va parler notamment d'une refonte que vous avez pu opérer au sein de Daer, qui consistait quand même à mettre en place pas mal de choses différentes, donc on a plein de questions pour vous avec Laurence. Mais d'abord, j'ai juste un premier sujet, on s'était dit pendant qu'on préparait cette émission qu'il y avait une notion qui revenait, je la trouvais intéressante, les notions de compromis dans la gouvernance en entreprise et notamment de la donnée financière, cette gestion, on va dire, des attentes entre un siège, un HQ et puis le local. Ça peut être facile quand on réfléchit à périmètre national et encore, ça peut devenir complexe lorsqu'on a une stratégie d'acquisition forte, on y reviendra, et ça peut être un vrai casse-tête quand on est dans le monde entier et qu'on a plein d'activités différentes. Alors d'abord, cette notion de compromis, il fallait la définir. Et donc, Laurence, vous nous avez, je crois, préparé une petite définition.
Alors, plus qu'une définition, je vais surtout vous dire ce que ça m'évoque. Parce que quand on parle transformation de la finance, gouvernance de pilotage, le mot compromis, il arrive extrêmement rapidement. Alors, tu vas me dire compromis entre quoi et quoi? Bah, déjà, entre la conso statutaire et le reporting de gestion, on va même parler de réconciliation. Déjà, on peut supposer qu'on s'est fâché. Ou alors, tu vas avoir un compromis entre la façon de piloter la gouvernance, le reporting, entre le central, qui lui aimerait avoir, tu sais, le fameux one fits all, un cube, un modèle, tout le monde aligné, super pratique. Bon, quand on a le même business model partout, c'est plus simple. Et puis le local, qui lui se dit, attends, moi j'ai un métier différent, j'ai besoin de flexibilité, j'ai besoin de travailler mes KPI, ma façon de piloter mon métier. Et oui, il y a un compromis parce que c'est toujours lié au temps qu'on y passe, aux solutions qu'on a pour être flexible et réactif dans le monde dans lequel on est. C'est l'accélération, moi, qui m'a absolument impressionné. C'est la dimension temps qui a changé. Donc, il va bien falloir gérer ce compromis entre les points de vue du central et le local, qui a besoin d'être extrêmement réactif sur ses métiers. Pas si simple. Et donc, oui, il faut que tout le monde s'entende et fonctionne ensemble parce que l'objectif, c'est vraiment la performance de l'entreprise au final.
Merci Laurence, la parole est à la défense. Qu'est-ce que ça évoque pour toi Jean-Philippe, cette définition?
Moi j'aime bien déjà le mot compromis. Déjà je trouve qu'aujourd'hui c'est un mot qu'on n'utilise plus assez dans la société. Voilà, et on a tendance à avoir des opinions très tranchées alors que finalement gérer une entreprise, c'est gérer les intérêts contradictoires entre les attentes des différents stakeholders de l'entreprise. Il y a forcément des intérêts contradictoires. Là on fait un zoom sur la fonction financière. Laurence l'a très bien défini, on a aussi nos compromis à trouver entre les attentes des opérationnels, les attentes des actionnaires et l'information qu'on est capable de fournir, à quel coût et dans quel timing. Et c'est toujours un compromis.
Ce que je retiens beaucoup de vos deux interprétations, c'est qu'il y a la notion un peu de politique dans le compromis, d'humain, voilà. Mais il y a aussi la notion dans ce que tu évoquais notamment Laurence, de caractère évolutif d'un modèle. Et donc, le compromis, en réalité, s'envisage pas forcément à qui est-ce qui gagne à un moment T, mais comment est-ce que business first, on apporte de la valeur et on est capable de, on est capable de s'adapter aux différents enjeux, parce que les stakeholders changent et les réalités changent.
Et puis surtout d'être capable de réagir, parce qu'en fait, au final, l'objectif, c'est que l'entreprise se porte bien, croisse, atteigne ses budgets. Et donc, le sujet, c'est de prendre les bonnes actions correctives pour corriger les dérives, identifier ce qui va se passer. Par exemple, trouver des signaux faibles qui peuvent devenir viraux au sein de l'entreprise. Il va falloir faire des compromis entre les enjeux de chacun et celui qui est extrêmement collectif. Par exemple, à quelle maille on travaille, jusqu'à quel niveau de granularité on va aller, parce que ça sous-entend derrière de mettre les équipes sous tension, tu sais, pour satisfaire des cadences de reporting à une maille extrêmement fine. Ça a un coût humain derrière. Donc, c'est aussi ce compromis-là. Ménage ta monture si tu veux aller loin. Je pense qu'il y a aussi au sein de la
pour moi, implicitement, ça veut dire qu'on trouve un terrain d'entente avec l'ensemble des parties prenantes, des stakeholders de l'entreprise. Donc, c'est un joli mot. Tout le monde doit y trouver son intérêt à la fin.
Voilà, pour qu'on puisse arriver à un reporting day-to-day. Non, quand même pas.
Ça accélère.
Ah, c'est sûr qu'on voit bien que ça a changé depuis quelques années. Allez, on arrête la théorie maintenant, même si c'était très intéressant. On passe au use case. Jean-Philippe Grégoire, donc Group Finance Director au sein d'Air. Il y a une décision qui a été prise il y a quelques temps, consistant en fait à passer de quatre, je crois, activités, donc façon de structurer le groupe en quatre activités bien distinctes, avec leur organisation, leur gouvernance, leur code, leur culture, de passer à trois, pour pouvoir apporter plus de support et une meilleure organisation, une meilleure lisibilité. Et derrière, vous allez mieux le définir, tu vas mieux le définir. Mais justement, c'est le premier point. Pourquoi envisager une telle refonte de la gouvernance data, finance sociale, légale? Pourquoi passer de 4 à 3 métiers? Et à quel moment ça a été décidé? Et comment toi, tu l'as vécu? Comment toi, tu as participé à cette décision?
Alors, d'abord, d'ailleurs, c'est une société encore actionnariat familial qui évolue dans le secteur de l'aéronautique pour ceux qui nous connaîtraient pas. Alors, on a quatre métiers. Le projet, il a consisté parce que le groupe a doublé de taille par à la fois de la croissance organique. Le secteur aéronautique a la chance de connaître de belles croissances, une belle croissance de la demande. Donc, à la fois.
Ce qui change beaucoup par rapport à la décennie d'avant.
Oui, il y a eu une sorte d'accélération et puis une reprise aussi forte après le Covid qui a entraîné des années moins glorieuses, moins soutenues. Donc c'est à la fois de la croissance organique et puis de la croissance externe, parce qu'on a fait du M&A qui a amené ce groupe en quelques années, en 5-6 ans, à quasiment doubler de taille. Donc la réflexion a été de se dire qu'on ne pouvait pas avoir la même gouvernance dans ce groupe avec une taille d'1,9 milliard que la gouvernance qu'on avait avec une taille d'1 milliard. Donc il y a une volonté d'avoir des divisions qui soient pleinement responsables de leurs décisions opérationnelles. Voilà. Et donc pour faire ça, on a décidé de se lancer dans un projet d'alignement des sociétés juridiques sur nos quatre métiers. Voilà. Et donc c'est un groupe qui a 163 ans d'existence, donc on peut aisément imaginer qu'on avait des sociétés où tous nos métiers étaient imbriqués, et donc on a désimbriqué tout ça, ce qui a été un gros chantier RH, comme tu l'as dit, un gros chantier financier, comptable, un gros chantier outils aussi, pour réaligner nos métiers et donner une gouvernance plus claire à chacune de nos divisions, le dialogue social, le choix d'outils aussi, adapté à nos différents métiers, et puis une responsabilité sociale pour les dirigeants, de manière à avoir un comité exécutif de chacun de nos métiers qui prenne pleinement les décisions opérationnelles. Même si on garde certaines responsabilités en centrale, évidemment, on essaye d'avoir des outils supports qui soient communs, la comptabilité, sur l'informatique. On essaye d'avoir malgré tout un socle commun, même s'il peut y avoir des outils spécifiques à chacun des métiers. Les financements, par exemple, aussi sont communs pour l'ensemble du groupe. Je ne finance pas encore chacun des métiers de manière autonome. Mais projet...
demain peut-être.
Peut-être demain, parce que cette organisation par métier nous permettra peut-être, un jour s'il le faut, de se marier avec d'autres partenaires. Je l'ai dit, le secteur est en forte croissance, ça nécessite des capitaux, et peut-être que la famille n'aura pas toujours les moyens d'apporter les capitaux qui correspondent à la croissance, donc on sera content de faire appel à des partenariats et de le faire au niveau non plus de la société holding, mais au niveau de chacune des filiales.
Donc si on résume, vous avez énormément grandi, il fallait revoir la gouvernance parce qu'on peut pas fonctionner à 2 milliards comme on fonctionne à 1 milliard, et donc vous avez voulu décentraliser le pouvoir tout en même temps en faisant monter en centrale une lisibilité affinée, affûtée de ce qui se passait dans chacun des métiers.
On a quatre métiers. On a un métier d'avionneur. On est avionneur, on fabrique des avions. On est équipementier, on fabrique des morceaux d'aérostructures. Ça sont nos deux métiers industriels et on est dans le service. On a deux métiers de service. On est dans la logistique et dans ce qu'on appelle le service industriel, qui est un métier où on met des cols bleus qualifiés, certifiés à disposition de nos clients pour les aider à assembler les avions ou les hélicoptères qu'ils vont vendre à leurs clients.
Très clair. Et alors du coup, donc la raison, la décision, on est en CODIR, en COMEX, on explique pourquoi il faut y aller, on y va. Comment tu organises le kick-off projet? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la bonne équipe, le bon tempo en tant que Head of Finance, de Group Finance Director?
Alors, j'ai pas été le seul à choisir la gouvernance, mais on a choisi un chef de projet qui venait de l'interne, qui était responsable de la techno, voilà, de l'innovation. Donc, il n'était pas forcément au départ formé au sujet technique, mais il connaissait bien le groupe et on savait qu'il avait une agilité intellectuelle qui allait lui permettre de piloter efficacement ce projet. Un contact aussi. On s'est fait aider par un cabinet conseil. Voilà, je sais pas si on a le droit de le nommer, mais on a pris un cabinet conseil pour nous aider à structurer quand même la gouvernance du groupe. Voilà, de lister aussi toutes les actions, d'être un peu une sorte de PMO, de Project Management Office. Et puis, on a mobilisé, ce qui est clé pour la réussite de ce genre de projet, c'est de toute façon la gouvernance qu'on met autour du projet. Donc, il faut qu'il y ait une gouvernance claire avec une équipe projet, des sponsors, des réunions à différents niveaux d'implication managériale qui soient avec des routines, qui soient super claires. Voilà. C'est la gouvernance du projet, elle doit être pensée dès le départ et si elle est bien pensée, on maximise les chances que le projet soit une réussite. Et ce projet, on l'a réussi puisqu'on l'a délivré. Alors, pas que moi en tant que financier, puisque ça, je l'ai dit, ça impliquait d'autres fonctions que la seule fonction financière, mais on l'a délivré en temps, en heure, en respectant le budget. Et c'est plutôt une fierté, voilà, aujourd'hui d'avoir réussi ça.
Mais les projets réussis ont aussi une dimension commune, qui est l'implication des exécutifs, qu'on ait un sponsorship fort, qui va permettre d'aligner les équipes dans la mouvance, dans la transformation qu'on veut accomplir. Donc, bien sûr, on est là pour parler aussi un peu technologie que je représente, mais c'est aussi beaucoup la dimension humaine d'impliquer les bonnes personnes, les différents départements, dès le début du projet. Et je vous ai toujours identifié au sein du groupe d'AR comme vraiment des industriels. Vous savez ce que vous voulez faire, comment vous allez le faire. La gouvernance, au moins dans les têtes, déjà, elle est extrêmement claire, ce qui évite d'avoir à lancer un projet et vous prendre une image parfois un peu féminine, de tricoter, de détricoter, de revenir en arrière, ce qui est vraiment ce qui est un risque pour les projets. Et plus on est clair, plus on est carré, en impliquant les différentes parties fonctionnelles dans la gestion du projet, c'est clé. Nous, on gère beaucoup de transformations. On le voit tout de suite, je dirais que dès les deux premiers rendez-vous, on voit comment ça va partir et si ça va aller tout droit ou s'il va falloir...
Alors, qu'est-ce qui ring a bell quand tu entends des choses où tu dis ça va partir dans le décor?
Déjà aussi la bande passante qu'on donne aux équipes, parce que un projet, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est on va venir mettre de la charge de travail complémentaire sur les équipes, faut l'avoir prévu. Bon, j'ai déjà vu des réunions projet où on affiche le nombre de jours hommes, ils regardent et ils font 97. Je vais être clair avec vous, là c'est moi. Moi tout seul, comment vous voulez qu'il fasse? Il a son métier de financier à délivrer au quotidien, il faut penser à tout ça. Donc c'est toute cette gouvernance dont parle Jean-Philippe qui est clé. Et à mon sens, c'est un critère clé de succès de quelle est l'équipe staffée, pour combien de temps et pour quel objectif, dans quel délai. Et sans ça, on fait de la poésie, quoi. Enfin bon, je caricature un peu.
Je suis d'accord, libérer de la bande passante pour lesquels les acteurs clés du projet, c'est absolument indispensable.
Et typiquement, la personne que vous avez identifiée en interne, elle était full-time sur ce projet?
Oui, elle était full-time sur le projet.
Là, typiquement, déjà.
Il a quitté sa responsabilité dans la partie innovation techno, il ne faisait que ça. Et il manageait l'équipe en direct, lui, l'équipe de conseil externe qui a servi quelque sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, de Project Management Office, suivant les calendriers, qui suivait les tâches, qui checkait que chaque workstream délivrait les actions qui avaient été prévues.
Voilà. Et pour qu'on comprenne bien, tu dis on a respecté et le budget et les délais, alors ça coûte combien? Non, je regarde. Mais par contre,
il n'y a pas de secret.
Ça
ne va rien dire.
Non, mais pour un groupe de la taille, donc on l'évoquait, de 2 milliards d'ailleurs, la notion de temps et d'argent, est-ce qu'on peut revenir dessus, si tu le peux? Ça coûte combien? Ça prend combien de temps?
Le projet a pris 2 ans en totalité, hein, de A jusqu'à Z. On a commencé début 2024 et c'est terminé là au début 26, mais officiellement les bascules ont lieu au 31 décembre 25 et ça a coûté une quinzaine de millions d'euros.
Ok. Et donc là-dedans, t'as tes licences, ton PMO, tes conseils, puis même tes coûts internes.
Voilà. Ouais.
C'est à peu près market practice de ce que...
Oui, j'ai pas de KPI sur le sujet. Ça dépend de l'ampleur que de ce qu'on va vouloir de la, transformer, en fait, de la complétude qu'on va vouloir faire. Mais effectivement, déjà, dans le bon point, je pense que tu as mentionné, Jean-Philippe, avoir pris un conseil. Je suis extrêmement favorable à ça parce que quand les vraies réflexions stratégiques sont faites dans les premiers ateliers à la porte de l'outillage, c'est pas le bon espace et c'est pas le bon temps. Donc, on peut parfois penser faire une économie de la partie conseil amont. C'est un énorme piège qu'on va payer en aval. Donc, je trouve que la démarche est remarquable et oui, il faut absolument mettre les moyens humains et financiers pour accomplir la transformation sur lequel il y a.
Il faut mettre les moyens, il faut libérer de la bande passante et avoir la gouvernance. Tu l'as dit, je l'ai dit, c'est absolument clé. Et un projet de cette ampleur pour nous, ça impliquait aussi mon directeur général qui participait avec moi, avec le DRH du groupe et avec la personne de l'ExCom en charge de l'informatique. On avait un steering committee tous les mois à notre niveau où on était alimenté par le conseil et ce chef de projet et qui nous faisait arbitrer les sujets de notre niveau. Et puis, bah, il y avait un niveau 2 et il y avait un niveau 3. Voilà, il y avait trois niveaux de gouvernance dans le projet. Avec des rencontres à intervalles différents. Nous, c'était mensuel. Il y avait, au niveau 3, c'était évidemment hebdomadaire. Et ça a marché parce que cette gouvernance, elle a fonctionné.
Elle était robuste.
Du premier jour jusqu'au dernier jour. Oui.
Et ton bottom-up, tu l'as fait comment? J'ai toujours un truc qui m'intéresse dans les sujets d'outils, ou quand on se réorganise de ce côté-là, c'est l'utilisateur final. On parlait de compromis, donc je reviens aussi à ces gens qui travaillent avec l'outil derrière. Il y a en général, maintenant on a quand même plutôt bien compris qu'il fallait leur demander avant d'y aller qu'est-ce qu'ils attendaient d'un outil éventuellement. C'est là que la notion de compromis est intéressante, comment on prend autant que faire se peut en compte les demandes des utilisateurs. Mais enfin, ça va peut-être vous faire sourire, vous qui nous écoutez et puis vous deux, mais entre ce qu'on prend en compte au début et l'outil final, il y a peut-être parfois un peu de variable. Comment t'arrivais à garder le lien avec les équipes au fur et à mesure? Est-ce qu'il y avait des cornerstones, des moments forts de présentation, de validation avant de passer à l'étape d'après? Peut-être une question bête que je pose, mais c'est important.
Non, il y a eu des moments forts, c'était les bascules, hein. C'est-à-dire quand on basculait une activité d'une société A vers une société B, on l'a fait à plusieurs reprises. Souvent, on essayait de le faire à la fin d'un semestre ou au début d'une année. Hein. Bon, après, il y a eu aussi des bascules en cours d'année. C'était des moments forts parce qu'on testait l'environnement pour voir si ça allait marcher avant de faire la bascule.
Et donc, il y a eu des moments de la bascule. Pilotes.
On regroupait non seulement les personnes directement concernées dans les fonctions support, mais aussi les opérationnels pour voir post-bascule si ça s'était bien passé, si tout se passait bien, et être capable de répondre live au sujet qu'on pouvait avoir. Ah, donc ces moments de bascule d'activité de société A vers société B, c'était des moments très forts où les équipes se sont retrouvées sur un lieu commun ensemble. On faisait ça le week-end pour pénaliser le moins possible l'activité et les livraisons. Donc ils se sont à plusieurs reprises retrouvés des week-ends entiers du vendredi au dimanche. Pour faire ces bascules sur encore une fois ensemble sur un lieu commun,
ça crée
une proximité. On commandait les pizzas. Ouais.
Le point important aussi dans la gestion de ce projet, et c'est remarquable ce que vous avez fait, c'est donner de l'autonomie aux équipes, parce que on le sait bien, le monde de la finance, le monde de l'entreprise, ils sont mouvants. Il va falloir être extrêmement agile, pouvoir réagir, soit par rapport à des sujets politico-économiques, on est en plein dedans en ce moment, soit par rapport à des acquisitions, des périmètres qui vont changer. Et le point clé, à mon sens, c'est vraiment que les équipes soient autonomes pour pouvoir réagir et faire évoluer, parce que le projet, il est terminé, il est go live, ok, on est content, on y est arrivé, on a respecté les délais, on a respecté les coûts, ok, c'est bon. Et demain matin, le périmètre, il va changer. Donc, en fait, ce qu'on perçoit souvent dans les équipes métiers qu'on rencontre, c'est de nous dire, alors là, ça marche, je ne touche plus à rien parce que je vais tout casser et on veut plus changer. Mais il faut changer puisque Jean-Philippe, dans sa fonction, va bien sûr trouver un nouveau périmètre, une nouvelle cible à créer, etc. Et il va falloir piloter la top line, l'EBITDA, le cash, okay, la cible qui est acquise. Et donc, tout ce projet qui a été monté doit être agile, et en tout cas au sein d'Amelkis, c'est vraiment pour nous un point extrêmement différenciant sur lequel on insiste énormément, c'est de mettre les gens en confiance et en agilité sur leur métier, c'est... pas en contraintes de process et d'outils.
Voilà. Laurence, on se connaît depuis longtemps, je t'ai connu dans différentes maisons, il y a plein d'outils qui existent. C'est quoi la différence entre Amelkis et un autre outil? Pourquoi tu dis que c'est important d'être agile? Pourquoi tu le dis aujourd'hui avec cette casquette-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu représentes une entreprise, un éditeur qui a cette capacité de faire ce que, j'imagine, beaucoup de tes concurrents disent tout haut, à savoir ça va très vite et c'est facile.
On va être clair, le marché de qu'on appelle l'EPM, Enterprise Performance Management, comment on pilote la performance de l'entreprise, c'est un marché hyper mature. Il n'y a pas une solution blanche et une solution noire, tu ne me croirais pas si je te disais ça, puis ça serait super facile de choisir. Non, c'est pas si simple, parce que la vraie question, c'est le chemin pour y arriver. Globalement, tu regardes des présentations, waouh, en plus il y a l'IA qui arrive, c'est la piste aux étoiles, c'est génial, et aujourd'hui la promesse est là. La question, c'est comment on y va? Quel est le parcours projet? Comment on va être agile? Comment on va être autonome? Comment on va être indépendant, nous, métier de la finance, de l'informatique? Parce que, évidemment, je vais changer mes demandes de reporting. Et puis, tu vas avoir, un moment, tu vas être sur la top line. Le moment d'après, tu vas être sur vraiment l'EBITDA. Puis après, on va être sur le cash. Il va falloir se piloter de façon... il va falloir changer dans le temps les KPI que tu pilotes et il va falloir à tout moment, en fonction des périmètres qui évoluent, être autonome. C'est là-dessus qu'on va, nous, insister pour mettre ça dans les mains de la finance. Tu le sais, à Amelkis, on s'est créé du mid-market, du monde des experts comptables. Mais si maintenant on adresse des très grands groupes, tu n'as pas le choix de faire autrement. Parce que tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les moyens et tu dois bien te débrouiller, tu dois être autonome. Et c'est vraiment l'ADN de cette maison qui maintenant adresse effectivement des grands groupes et va vers le controlling, donc avec un apport technologique tout à fait différenciant. Mais c'est ça, c'est le chemin pour y aller et l'agilité qu'on a derrière. Et là, je pense qu'il y a un petit sujet à regarder.
Parfait. Bon, ben, la prochaine fois qu'il y a un tel projet, on essaiera de, on comparera le timing 24 mois où on fait plus vite. Mais juste une dernière question peut-être sur ce projet avec Jean-Philippe, parce que ça fait un moment déjà qu'on se parle et quand on s'amuse, on regarde pas le temps. Un key success factor et un truc que tu referais pas sur ce projet de 24 mois.
Qui succède Farter, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Pour moi, c'est la gouvernance, ouais. Voilà, et le fait d'avoir un project management office externe, indépendant, expert, professionnel, qui nous a aidé à le réussir. Ce qu'on referait pas, ou en tout cas ce qui nous a apporté le plus de difficultés, c'est la prise en compte des contraintes de ce projet à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire auprès des clients et des fournisseurs, voire des instances de certification, puisqu'on est dans l'aéronautique, c'est-à-dire toutes nos contraintes internes, ça, outils, personnel, comptable, tout ça, on les a assez bien maîtrisés. Par contre, on a eu des difficultés. C'est un projet qui s'est déployé par étapes. On n'a pas fait un big bang là au 31 décembre. Donc, on a pu apprendre du premier déploiement pour pas refaire la même erreur du deuxième déploiement. Mais les difficultés qu'on a eues, ça a été d'intégrer la contrainte client et la contrainte fournisseur. C'est-à-dire, on rechefflait la découpe de nos métiers en société juridique. Mais est-ce qu'on avait suffisamment vérifié que les clients allaient passer les commandes à la nouvelle bonne entité? Est-ce que les fournisseurs allaient...
À une entité qui a les bons credentials et les bonnes certifications.
Voilà, exactement. Est-ce que les assureurs crédits allaient comprendre l'évolution du groupe et de ses KPI financiers pour continuer à financer nos fournisseurs qui cèdent des créances d'air? Est-ce que, voilà, tout cet environnement extérieur, clients, fournisseurs... instance de certification, assureur crédit, qui étaient impactés par ce projet, il fallait les entraîner. Et il fallait s'assurer qu'eux soient prêts aussi à cette nouvelle organisation le jour où on faisait go.
Et enfin, ça, vous l'aviez peut-être sous-estimé
Ça, on l'a sous-estimé au début. On l'a sous-estimé, ça nous a créé des difficultés. On était même obligé de repousser une bascule, voilà, la première. On a été obligé de la repousser de 3 mois parce qu'on s'est rendu compte que les clients n'étaient pas prêts. Ouais. Voilà, enfin, ils n'étaient pas prêts parce qu'on les avait pas assez préparés, ou qu'on n'avait pas assez vérifié qu'ils étaient prêts, ou qu'on les avait informés trop tard, qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire les modifications. Voilà. Et ça, je pense que c'est une leçon qu'on a apprise dans ce genre de projet. On a toujours tendance à se regarder soi-même, et puis on oublie que y a tout un environnement et que aujourd'hui tous nos systèmes d'information, tout est imbriqué quand même. Hein. Voilà,
je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront qui nous écoutent dans ce que tu dis. Hein. C'est bien normal. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite chez Daer? Il y a des projets à venir. Et puis, globalement, comment toi, tu vois en tant que Head of Finance Comment tu vois la sélection d'outils de solutions? Est-ce que tu es pour une suite globale? Est-ce que tu es pour l'agglomération de différents outils spécifiques sur une workplace?
C'est une question beaucoup trop importante pour que je la prenne moi-même. Donc, je laisserai mes équipes beaucoup plus experts que moi décider. Non, mais on est en plein dans le sujet puisqu'on est, très... SAP, donc BPC, BFC, qui sont des suites intégrées, mais qui vont, dans les années à venir,
changer.
Donc, on est en pleine réflexion et notre grand chantier 2026-2027, ça va être justement de bien identifier notre cahier des charges, hein, ce qu'on veut. En fonction de ce qu'on a aujourd'hui, on sera forcément influencé. Et de réfléchir, de faire un peu le tour d'horizon de tout ce qui existe sur le marché, toutes les solutions. Alors, hein, Amelkis fera sûrement partie des acteurs qu'on va regarder. Et aujourd'hui, on n'a pas pris de décision. On fait notre cahier des charges et on va faire un inventaire de tout ce qui existe avec les plus, les moins.
La transfo, ça n'arrête jamais.
Je le disais en souriant, mais c'est vrai, j'ai des équipes qui sont expertes dans les outils. Et tu disais tout à l'heure, il faut faire confiance à ces équipes. Alors, il y aura forcément un moment où je devrais valider quelque chose, le raisonnement, le budget, la logique, mais je déciderai pas contre mes équipes. Voilà. Moi, je déciderai pas contre mes équipes. C'est hyper important que les équipes soient embarquées. C'est elles qui, au quotidien, demain, utiliseront les outils et il faut que le choix soit le leur.
Et là encore, quand on parle de choix, tu sais, on va revenir à ce qu'on disait en intro. C'est un compromis. Tu demandes suite globale versus solution plus best of breed, comme on appelle ça dans nos métiers. C'est encore un compromis. Au final, tu as soit la tentation de tout mettre dans la suite globale, la plateforme, mais qui a des contraintes d'outils qui peuvent finalement contraindre ton projet et qui ont un coût du fait des jours-hommes qu'il va falloir mettre parce que c'est finalement la techno qui peut te contraindre. De l'autre côté, tu peux pas avoir un best of breed complètement déconnecté parce que ce qui drive au final l'entreprise, c'est sa data. C'est d'avoir une seule version de la vérité. Tu as plusieurs moyens technologiques d'y arriver, mais toujours pareil, il va falloir gouverner cette data, s'assurer qu'elle est juste parce qu'il y a rien de pire dans les équipes finances. Jean-Philippe va le dire pour dire, au fait, ce chiffre-là, là, t'en es sûr? Parce que moi, j'ai pas le même. Et hop, c'est on repart dans Excel et on pointe.
Ouais, mais ça, j'ai connu ça. Alors ça, c'est pas les chiffres de l'opérationnel.
Une directrice de BU, non, mais ça, c'est laisse tomber, c'est les chiffres de la finance. Voilà. J'ai pas la même chose dans mon carnet de commandes.
On lutte contre ça, mais tu sais, ça peut vite revenir.
C'est ce sujet de gouvernance de la donnée unique qu'il va falloir gérer. Et effectivement, dans les solutions, c'est les bonnes questions à poser et de comment on va y arriver et comment tout ça va pouvoir changer. Puisque, comme je le disais, c'est un monde qui est extrêmement fluctuant et qui est fait pour être fluctuant. Et c'est là qu'on est là pour vous accompagner.
C'était une très belle conclusion, Laurent Civon, Head of Growth au sein d'Amelkis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à notre grand témoin, Jean-Philippe Grégoire, grand groupe finance directeur au sein de Daher.
Merci à toi, merci à Laurence.
Merci pour ta transparence, pour tes retours, pour ta vision. C'est toujours un plaisir de te recevoir.
C'est gentil.
Pour ma part, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce podcast Smart Report. Vous le retrouverez évidemment sur bismart.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À tout de suite sur Bismart.